Bonjour à toutes et à tous, il est 17h03, on a 3 minutes de retard, nous sommes le mercredi 10 mai 2023, vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, tout va bien. Merci de nous rejoindre sur nos ondes. Alors aujourd'hui nous allons avoir comme invité Sandrine Malika Charlemagne, qui va nous parler de son livre, un recueil de poèmes intitulé « La petite ouvrière métisse », ouvrage paru aux éditions La Rumeur Libre. Et puis, nous aurons une première partie d'émission consacrée à l'écriture et l'édition, avec la présentation d'un livre qui m'a beaucoup ému, le livre de Patrick Kechichian avec pour titre « L'écrivain comme personne », édité chez Claire Polland en 2023, le livre de Jean-Yves Mollier aux éditions Kalman-Lévy. Et le livre d'Arnaud Vivian, Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire. Après la présentation de ces livres, eh bien, nous pourrons échanger avec Sandrine, puis nous aurons notre dernière partie d'émission avec une autre invitée par téléphone, Dominique, qui va nous rejoindre à 18h15. Alors, tout d'abord, nous abordons un livre qui, comme je le disais, m'a beaucoup touché. C'est le livre de Patrick Kechichian, L'écrivain, comme personne. Alors, c'est une vive émotion qui attend le lecteur dans ce petit ouvrage de Patrick Kechichian, tout simplement parce que, vous le connaissez, il a été responsable pendant longtemps, il a été le patron du Monde des Livres, et là je dirais que c'est le lecteur de ce supplément, le Monde des Livres, qui réagit. Moi je l'ai lu pendant des années, je le lis encore, et l'ouvrage débute par une très belle introduction d'un de ses proches, à lire évidemment. Mais moi j'aime bien me plonger tout de suite dans le texte de l'auteur, sans influence, quitte à revenir une fois l'ouvrage lu sur l'introduction. Abordons l'incipit. Je cite. « Depuis l'enfance, je débordais d'écrits, de voix écrites. Le ton est donné. C'est une passion pour l'écrit qui habite PK, comme il avait l'habitude de signer ses textes. Le flot de l'écrit, la victoire de l'écrit avec une très belle formule, je cite encore, l'appel des grands fonds. Comme à l'accoutumée, je ne donne pas toutes les clés pour vous inviter à pénétrer dans le monde de Patrick Kechichian, sa quête de et par l'écriture. Mais l'émotion dont je viens de parler est renforcée par ce constat qu'énonce Claire Polland, son éditrice. Voilà le livre annoncé, malheureusement posthume, qui me rend horriblement triste. Et ce n'est qu'à la fin de l'ouvrage que vous comprendrez la charge émotionnelle pour Claire Polland. Dans quel monde vivait PK ? Il vous répond : dans l'univers mental que j'habitais, une bibliothèque anarchique, ébranlante, s'enrichit peu à peu de mes propres fragments d'existence, de bouts de ficelle sommairement noués ensemble, petits cubes posés l'un sur l'autre en équilibre précaire. Là, tout était à saisir, disponible à bas prix, comme sur l'étal d'un chiffonnier. C'est le travail d'un écrivain, d'une personne qui choisit des mots, les écrit, les rature, organise des phrases. On y sent la passion pour la langue et la peine à élaborer son texte. Le tour était joué. Je cite encore. Il ne me restait plus qu'à me mettre au travail, à enchaîner les mots, à mêler leur sens et leur musique, à aligner les phrases, les chapitres, à noircir et organiser les pages. Pour qui a, un tant soit peu, écrit, c'est bien là le plus difficile. PK sait faire passer cette difficulté de se colter au texte. Mais il sait aussi, avec humour, pratiquer l'autodérision, comme certaines pages, certains passages le montreront. Et comme l'écrit Claire Polan, la figure d'autodidacte y est très présente. Le titre de l'ouvrage, et vous savez combien je suis attaché à l'analyse des couvertures et des titres, « L'écrivain, virgule, comme personne ». Eh oui, une virgule. Cela appelle le lecteur. Personne, est-ce Ulysse ? Un individu ? Une forme de néant ? Une personne en construction ? Ou plus simplement, PK ? À vous de lire. Et puis, écoutez encore. Que suis-je à cet instant en train d'écrire avec application ? Sinon le récit truculent et turbulent, filandreux de mes affres personnelles. Et d'ailleurs, puisque je choisis de me montrer nu, d'exposer mes entrailles, rien de beau à voir, je préfère vous prévenir. Comment dissimuler que ce plumitif, c'est moi encore, toujours, et si désespérément moi ? Très belle phrase. Et cette autre citation ? Un impossible récit accède au jour par l'écriture, par cette main qui trace chaque lettre, chaque mot. Par elle, par les paroles, l'être est là. À chaque page, je le devine, cet auteur penché sur cette page, et le rapport à la page laisse une douce ambiance, je cite encore. Le jour se lève, sa fraîcheur entre en concordance inattendue avec celle, à cet instant, et seulement à cet instant, de mon esprit. Par la fenêtre, la lumière éclaire doucement la ville, le ciel est comme lavé. Une page nouvelle est disposée sur ma table, elle est blanche comme ce jour, accueillante, et n'a jamais été tournée. C'est un peu ce que je ressens en écrivant cette chronique ce matin d'avril, lorsque j'ai rédigé ce texte. Je vous laisse découvrir les pages consacrées à un mot fort dans la vie de Patrick Kechichian, sa conversion, mais aussi celles entourant et protégeant cette phrase « Je ne suis pas fou ». En fin d'ouvrage, il voit distinctement une personne, sa personne. Notre écrivain peut faire acte de présence. Il y aurait dans ce texte comme une métamorphose, une résurrection. Est-ce anodin que le texte soit achevé à Pâques 2021 ? Enfin, je vous laisse lire la page 159, aussi importante que les 158 autres qui précèdent, pour comprendre que celui que Claire Polan appelle Patrick est bien chargé d'émotions. Allez jusqu'à cette page, mais vous la goûterez en ayant lu les 58 précédentes. Patrick Kechichian, L'écrivain comme personne, aux éditions Claire Polan, 2023. Frédéric, on y va ?
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat
et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Cette tendresse toute contenue dans cette page 159, je l'ai bien perçue dans les yeux de Claire Polan lorsque je l'ai rencontrée au Salon du Livre, et je dédie à Patrick et à elle cette merveilleuse chanson de Brel, dans lesquelles il y a des thèmes abordés par Patrick Kechichian. Le livre, c'est donc l'écriture. On a dit qu'on allait passer cette première demi-heure à aborder les rapports entre l'écriture et l'édition. Eh bien, l'édition, et oui, Jean-Yves Mollier, qui est un grand spécialiste du monde de l'édition et de l'histoire du livre en France notamment, vient de publier aux éditions Calman-Lévy, justement, les éditions Calman-Lévy, de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale. Bah, évidemment, nous allons en parler. Les éditions Calman-Lévy, mais quelle histoire! Ce livre retrace l'histoire d'une famille, mais aussi celle de l'histoire littéraire de notre pays, dans lequel le lecteur découvrira la richesse du catalogue depuis 1836. Comme il est indiqué en bas et à droite de la quatrième de couve, toujours ma passion pour les couvertures, eh bien, vous vous rendez compte, 1836, une des plus vieilles maisons d'édition. Des noms d'auteurs en farandole, Balzac, Baudelaire, Flaubert, de Nerval, Sand, de Vigny, pour les plus célèbres, mais aussi des inconnus, des oubliés, tout un parcours qui est mené avec une érudition fascinante. En couverture, Colette, Anna de Noailles, on en a parlé d'ailleurs, et de Colette et d'Anna de Noailles, Pierre Loti, Anatole France, bien oublié Anatole France aujourd'hui. Bon, Pierre Loti aussi d'ailleurs. Et Jean-Yves Mollier a déjà consacré un livre à ces mêmes éditions sur la période 1836-1891. Il souhaitait nous livrer la suite, et notamment la question de l'arianisation de ces éditions. Un régal de culture, je l'ai dit. Chaque page nous éblouit par le fourmillement des faits et le talent narratif de l'auteur. Comment le nom Calman-Lévy fut constitué? Quels sont les liens avec les revues, dont la Revue de Paris, bien oubliée aujourd'hui? Cette maison d'édition couvre large, pas question d'être étiqueté. On y retrouve des conservateurs, et les Calman-Lévy seraient plutôt monarchistes. Mais l'ouverture intellectuelle est toujours une valeur chez eux. La place des femmes s'étend avec des auteurs un peu oubliés comme Marcel Tiner. Comment se règlent les rivalités de maisons d'édition? Vous verrez les méthodes de Gallimard, Grasset, De Noël pour récupérer les auteurs, Calman-Lévy aussi, hein. L'introduction de la publicité. Comment Calman-Lévy a-t-il pu négliger Peggy? Gide, si susceptible, Monsieur Gide. Ou encore l'auteur de Covadis, un des plus grands succès de l'édition. Les patrons de cette maison d'édition s'intéressent aussi à la littérature étrangère. Ils publient Gorky, D'Annunzio, La case de l'oncle Tom, Poe, traduit par Baudelaire. Ils développent les collections d'enfants, un livre à un franc. Oui, c'est étourdissant. On est vraiment fasciné de voir la capacité et l'imagination de cette maison d'édition. Pourtant, la concurrence est rude. Tous les coups sont permis. Difficile de se battre pour une vénérable maison qui sera, et oui, c'est vrai, un peu sclérosée face à la crise des années 30. Les publications antisémites se multiplient. Et les auteurs de chez Calman-Lévy sont plus qu'ambigus. Bon, nous reviendrons sur l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres qui est vraiment absolument odieux. Et la guerre arrive. La France est occupée. L'arianisation de cette maison est en marche. Et les collabos s'installe rue Aubert, qui était à l'époque le siège historique de cette maison d'édition. Les frères Kalman-Lévy, eux, rejoignent la France libre et sont chargés, devinez quoi ? Bah, d'éditer des livres, évidemment, pour soutenir le moral des Français. On y retrouvera comme premiers auteurs, bah, on y retrouvera Joseph Kessel, co-auteur du Chant des Partisans, l'historien Seignobos, ou encore Romain Gary, destiné à un beau destin quand même, à une belle perspective. Et en France, une tentative de rachat fictif échoue à protéger la maison, à la différence des éditions Nathan. Alors Louis Thomas, un collabo, prend la main et appelle cette maison, ça s'invente pas, aux armes de France, tout un programme. Les membres de la famille qui ne pourront se cacher bah, seront arrêtés et déportés. L'antisémitisme se déchaîne dans la presse comme, oh, vous rappelez peut-être, pilori, je suis parti, et puis, je suis partout, pardon, et puis évidemment, la vie publique, on a une quotidienneté de la vulgarité antisémite sinistre au total. Les comportements des auteurs, des autres éditeurs sont plus qu'ambigus à cette époque. Bon, Gallimard n'a pas été forcément très correct, on va dire ça comme ça. On en a déjà parlé dans l'émission avec le créateur de la collection La Pléiade. Et à la Libération, Louis Thomas sera condamné à une peine de prison. Bon, rassurez-vous, il sera libéré en 1952. D'ailleurs, c'est assez étonnant le nombre de collabos qui sont condamnés, puis qui après ça sont libérés 3-4 ans après. Et son complice, Henri Jamais, protégé un temps par les institutions religieuses catholiques, se réfugie en Suisse. Bah, tout comme le sinistre Bernard Fay, administrateur de l'ABN, anti-franc-maçon fanatique. Mais comme le souligne Jean-Yves Mollier, la famille Kalman-Lévy retrouve ses bureaux. Mais, je cite, « plus rien ne serait désormais comme avant, et le fait même d'avoir placé le renouveau des éditions sous le signe de la publication du journal d'Anne Frank signifiait qu'une page était définitivement tournée dans l'histoire d'une maison d'édition plus que centenaire. » Jean-Yves Mollier, les éditions Kalman-Lévy, de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale, publiées chez Kalman-Lévy en 2023. Frédéric, un peu de Camille Saint-Saëns à ce moment-là. Voilà, eh bien, le Carnaval des animaux, l'introduction et la marche royale du lion de Camille Saint-Saëns, ben, tout simplement parce que Les Calman Lévy aimaient beaucoup Camille Saint-Saëns. Donc voilà pourquoi nous avons souhaité sélectionner cet extrait du Carnaval des animaux. Et peut-être aussi, Frédéric, on va en parler bientôt, mais on vous en dira plus dans quelques jours. Nous allons lancer une nouvelle émission sur Radio Libertaire qui sera consacrée à la musique classique, et notre premier compositeur, choisi par Frédéric, qui me l'a imposé, il m'a dit, c'est Camille Saint-Saëns ou je ne fais pas l'émission. Bon voilà, donc vous aurez Camille Saint-Saëns, je plaisante. Quelques annonces avant de présenter le dernier livre de notre rubrique édition-écriture. Je voudrais souligner que du 11 mai au 27 mai, au Salon d'honneur de la mairie du 20e arrondissement à Paris, vous aurez le plaisir de retrouver des tableaux de Georges Franco, Un regard de peintre sur les femmes communardes. Des photographies, ça je trouve ça aussi très intéressant, de Fred Furgol sur les lieux de la commune d'hier et d'aujourd'hui. Autrement dit, vous avez des photos de l'époque et puis vous voyez les photos d'aujourd'hui, comment la place du Château d'Eau, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire la place de la République. Et puis Isabelle Abivène, qu'on aime beaucoup parce qu'on a eu le plaisir de la recevoir ici, elle est venue exposer ses pastels à Publico, et bien elle va présenter plus d'une centaine de portraits de communardes. Donc dans ce salon d'honneur, donc vraiment allez-y du 11 au 27 mai au salon d'honneur de la mairie du 20e arrondissement, station Gambetta, et puis profitez-en peut-être pour aller faire un tour et tout simplement au Père Lachaise et aller voir le mur des fédérés. Frédéric, est-ce que nous avons une autre annonce ou deux autres annonces?
Tout à fait. Alors, je vais essayer de faire assez rapide, mais de façon précise. Le cinéma de la commune vous propose un documentaire de Catherine Fumet et François Guérouet. C'est bien la première partie que nous avions précédemment programmée, mais que nous n'avions pas diffusée le mois dernier. Donc, je répète bien, c'est bien la première partie. Le documentaire s'appelle « Notre terre mourra proprement ». C'est un film des comités centrales, histoire de la lutte sociale, de la lutte contre les déchets nucléaires, aura lieu, alors notez bien, le mercredi 17 mai 2023 à 20h. Et où ça a lieu? À la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Pour s'y rendre, c'est très facile, c'est le métro Oberkampf ou Fille du Calvaire. Voilà, vous pourrez retrouver ceci sur l'agenda militant indépendant ou sur notre propre blog. Commune de Paris, Fédération Anarchiste Overblog.com. Et puis une deuxième annonce aussi, qui s'annonce pour aussi très bientôt, le samedi 3 juin. Qu'est-ce qui se passe ce samedi 3 juin? Nous animons au LAP, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, à la fin, les 12 heures pour l'anarchisme. Alors ça commence le matin à partir de 9h30 jusqu'à 22h30 avec un concert à CAB. Nous, ça aussi, vous pourrez retrouver, il y a différentes diffusions d'ailleurs du documentaire de Tancred Ramonet, Ni Dieu ni Maître. Donc il y aura des interventions, des déjeuners, enfin plein de choses, et vous pourrez retrouver le programme sur notre blog, comme j'ai précité, Commune de Paris, Fédération Anarchiste Overblog.com. Donc, ça se passe le samedi 3 juin à partir de 9h30 avec un concert final et le groupe ACAB. C'est où? Au lycée autogéré de Paris, 393 rue de Vaugirard, 75015 Paris, dans le 15e, métro, tram, porte de Versailles. Voilà, j'en ai terminé pour les annonces. Je repasse la parole à Francis.
Merci. Eh bien, écoute, nous allons aborder un dernier livre sur l'édition. Station Goncourt. Le titre est plaisant, une référence à une station de métro de l'Est parisien, et la fin de l'ouvrage montrera que ce n'est pas si drôle. Cette tradition du prix en France depuis 120 ans fait songer au prix de fin d'année à l'école primaire. Les bons élèves ont les prix d'excellence, d'honneur, et puis les autres ont les prix de compensation. Je me souviens du prix de camaraderie, par exemple. Il en est de même dans le milieu littéraire, impitoyable. Il s'agissait à l'époque, quand on a créé les titres, les prix, il s'agissait de rompre avec l'Académie française, qui finira d'ailleurs par créer son propre réseau de prix. On n'y échappe pas. Et Arnaud Vivian nous en rappelle l'histoire dans « Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire », publié aux éditions La Fabrique, cette année, en 2023. Alors, il est de bon ton de les moquer. Pourtant, certains écrivains se précipitent pour intégrer les jurys et parfois figurer dans plusieurs. Quelques-uns ont la cote, et puis d'autres prix disparaissent. Et si les prix étaient une affaire d'argent, au moins pour les éditeurs? Oh, allez, environ une dizaine de ces prix permettent un tirage à 50 000 exemplaires chacun. C'est pas mal, les éditeurs s'en sortent. Mais les sommes versées aux auteurs varient suivant la notoriété du dit prix. Alors pourquoi crée-t-on un prix? Parfois pour acquérir de la notoriété, souvent en réaction à d'autres prix, ou pour consoler les perdants. Edmond de Goncourt pensait attribuer le 8e couvert de son jury à Jules Vallès. Mais celui-ci, conforme à son éthique, vous savez combien on aime Vallès dans notre émission, refusa avec des mots puissants. Il les qualifiait de petites boîtes à camaraderie, petites fabriques de gloire. Tout est affaire de fric. Pour lui, l'argent enrégimente tout simplement les poltrons qui ont peur de la famine ou qui reculent devant elle, ce qui est leur droit. Mais les mêmes gens auraient trouvé dans leur ruisseau où se sont décollées leurs illusions le clou de leur talent, si talent ils devaient avoir. C'est tout Vallès. C'est odieux. C'est très fort. Mais je ne sais pas, peut-être plutôt ces personnes-là qui sont odieuses. En fait, cette république des lettres vit en vase clos. Des soupçons de magouille, de favoritisme, mais dès le début. Les éditeurs se partagent les prix, ou plutôt les gens d'affaires qui les tiennent et se les attribuent. Et si par hasard vous avez un prix renommé à attribuer à une petite maison d'édition, cherchez qui détient le capital de l'émission et de l'édition. Alors faut-il les supprimer ? Bof, ils font partie du paysage un peu caricatural. La question du vote anime régulièrement le Landerneau des lettres, qui se limitait autrefois au secteur de Saint-Germain-des-Prés, et aujourd'hui surfe sur le net. Public ou secret, le vote? Faire des jurys tournants? Vous lirez les pages consacrées à cette thématique. Plus loin, vous goûterez celle relative au prix canular, j'aime beaucoup, le prix de la page, le prix du meilleur incipit. Alors, les écrivains vivent-ils de leur art? Ont-ils un besoin impératif de ces prix? Oh, pas vraiment, ils ont souvent une autre activité, mais enfin, c'est pas tellement nouveau dans l'histoire. Et en lisant les dernières pages, vous comprendrez le sens et la portée du titre « Station Goncourt », oui, la République des lettres est vraiment un univers impitoyable. Arnaud Vivian, « Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire » aux éditions La Fabrique en 2023. Et avant de parler de poésie avec Sandrine Malika Charlemagne, eh bien, écoutons le texte d'un maître des mots chanté par un autre maître de la voix, celui-là. Eh oui, cet art poétique.
De la musique avant toute chose, et pour cela, préfère l'impair. Plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher,
que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance, oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps, puis du plus loin la pointe assassine. L'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours? Que ton verre soit la chose envoilée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée, vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste. Et littérature, et tout le reste, et littérature.
Alors, Sandrine, bonjour, tu passes après Léo Ferré et Verlaine.
Ah bah oui, c'est...
Tu es une autrice...
Des souterrains.
Des souterrains? Ah oui, c'est ça? Bon, très bien. Alors, bon. Alors, donc on a déjà annoncé que tu avais publié récemment La Petite Ouvrière Métisse, mais tu en as écrit d'autres livres précédemment. Alors, tu as suivi des cours de théâtre, tu travailles les mots avec les habitants de quartiers populaires, Vitry, Sevran, et puis tu as publié quand même une dizaine d'ouvrages. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire de la poésie? C'est pas évident d'écrire de la poésie.
Bah, en fait, c'est pas évident, oui, ça c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est quelque chose que... Enfin, j'aime beaucoup la poésie. Alors après, parce que j'en ai lu, et je sais pas, pour moi, c'est un univers dans lequel je me retrouve, c'est l'intimité, c'est quelque chose de l'ordre du secret, mais en même temps de choses qu'on partage. Enfin, il y a tout type de poésie, il y a celle de Desnos, qui est celle de l'entre-deux-guerres. Après, on a la... Enfin, on a tellement de paysages dans la poésie que voyager à l'intérieur, pour moi, c'est magnifique. Alors après, je ne suis certes pas à la hauteur de ceux que... Ou celles, je n'ai pas encore cité celles, mais de ceux que j'ai cités.
Et alors, pourquoi ce titre, La Petite Ouvrière Métisse?
En fait, je voulais rendre hommage au monde ouvrier. Et puisqu'il est question quand même dans ce recueil du monde du travail, des femmes et des hommes hein, aussi, et aux cultures, à la rencontre des peuples et des cultures qui se produit aujourd'hui.
Et moi, je pense qu'il faut quand même une forme de courage, de volonté pour écrire, parce que l'auteur se révèle toujours un peu, et particulièrement dans la poésie.
Sans doute plus, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il me semble. Dans la poésie, j'ai l'impression, effectivement, qu'on se révèle davantage et qu'on peut suivre comme ça ou se raconter des choses sur celle ou celui qui écrit. Et effectivement, c'est un pari un peu risqué parce que on est un peu obligé de se livrer soi-même tout en étant aussi sur une recherche. Et c'est ce pari-là qui m'intéressait et que je souhaitais creuser.
Il y a certains passages, d'ailleurs, certains textes qui sont très intimes.
Je ne sais pas.
Non. Voilà. Dans un entretien qui est inclus dans le livre, tu as dit la poésie est l'âme d'une langue. Pourquoi ?
Parce qu'il me semble, enfin plutôt qu'elle est le cœur d'une langue. Parce que si on ne la maîtrise pas, cette poésie, ou si on ne l'appréhende pas, peut-être, hein, alors après c'est très subjectif, hein, ce n'est que mon opinion, que pour vraiment que la langue française, enfin là je parle de la langue française, ça pourrait être valable aussi pour l'anglais, l'allemand, mais qu'il faut en passer d'abord à chaque fois finalement par la poésie, et que c'est la poésie qui cisèle le langage, et que grâce à la poésie, on va au plus loin vers la littérature. Un peu...
Ouais, je considère que c'est plus difficile, le choix des mots, j'ai l'impression, en t'écoutant, de réentendre la poésie de Verlaine sur l'art poétique, hein, de la musique avant toute chose. Le choix des mots est fantastique.
Voilà, c'est sur l'histoire du choix des mots qu'on... Et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment l'âme ou le cœur, hein, le cœur de la langue.
Qu'est-ce que tu penses par exemple de Mallarmé ?
Alors j'ai pas énormément lu Mallarmé, mm-hmm. Je dois avouer.
Parce qu'on a certains passages de Mallarmé, on a presque plus l'impression d'entendre des sons que des phrases. C'est vraiment le choix des mots qui est fantastique.
Dis-moi l'un desquels, par exemple. Je n'ai pas beaucoup lu de lui.
J'ai pas en tête, mais...
Si ce n'est que c'était le compagnon, enfin, le compagnon dont était très épris Rimbaud.
Non, Mallarmé, c'est pas...
Verlaine. Je fais une digression.
La chair est triste et j'ai lu tous les livres. Mais là, tu te jettes du premier pont de la Seine que tu trouves. Mais et puis il y a des phrases où c'est vraiment des sons qui sont repris. Mais et puis tu parles à d'autres moments dans
à part le coup de dé. Qui jamais n'abolira le hasard.
Par exemple, oui.
Mais, ben voilà, mais enfin, ma lecture, c'est-à-dire Mallarmé, c'était peut-être un peu hermétique.
C'est assez
pour moi. C'est pour ça que je connais sans bien connaître. À part cette histoire du coup de dé, jamais n'abolira le hasard.
Alors, tu abordes l'entretien aussi, tu abordes des influences comme Brecht, Cartier-Bresson et Desnos. Alors Desnos, je vois, Brecht, je vois, Cartier-Bresson, pourquoi ?
C'était ses photos. J'aimais beaucoup ses photographies.
Mm-hmm. Tu sais qu'il était libertaire ?
Ah, ben, je le découvre. Non, je ne savais pas qu'il était libertaire.
Ah oui,
j'aimais beaucoup ses photographies, me touchaient, une façon comme ça de rendre le quotidien, la façon dont il... Après, c'est mystérieux, hein, quand on...
Surtout, c'est du noir et blanc.
Oui.
Donc,
j'aime beaucoup le noir et blanc.
Oui, a beaucoup plus de force. Bon, on retrouve ça chez d'autres. Hein,
un peu de Pardon ou Doineau, exactement.
Mais chez Cartier-Bresson, c'est aussi la possibilité de... de représenter des paysages, de présenter aussi des quartiers populaires.
Voilà, j'aimais exactement.
Et comme tu as bien dit au départ que tu abordais la petite ouvrière métisse parce que tu voulais parler des quartiers ouvriers, des quartiers populaires, c'est dans ce sens-là peut-être qu'il y a cette influence.
Alors du coup, peut-être que, oui, comme je répondais à un entretien, alors ça c'était complètement involontaire, qui me nourrissait au niveau des photos. Je sais que ces photos... m'interpellait.
Ouais.
Alors, est-ce que j'ai répondu en lien avec le recueil ? Alors ça, c'était de manière complètement inconsciente, pour le coup.
Et puis, Desnos. Alors, l'influence de Desnos.
Et sa poésie.
Oui.
Puis son parcours. Son parcours... En fait, c'était quelqu'un qui est dans la résistance. Et puis, bon, malheureusement, il est mort. Il est mort d'une manière tragique.
Oui.
Il est mort d'une manière tragique.
Je crois que le camp a été libéré.
Il est à peine sorti du camp qu'il en est mort. Il était tout maigre, quoi, tellement maigre qu'il n'a pas survécu. Bon, indépendamment de ça, je sais que j'aime beaucoup aussi sa façon de sa façon d'écrire, ses poèmes aussi bien militants que lié aussi ses poèmes dédiés aux femmes. J'aime beaucoup l'écriture de Desnos.
Alors, dans tes poèmes, où sommes-nous ? En Algérie ? Dans un village ? En France ? Dans les banlieues ? Où ça ?
Ben, ça dépend, c'est un peu... tu as bien égrené les... C'est tantôt dans un petit village picard, tantôt ça peut être une banlieue, tantôt Paris, tantôt l'Algérie.
Alors, j'ai dit l'Algérie, c'est la Kabylie ou c'est l'Algérie ?
C'est l'Algérie, parce que ce peut être, effectivement, il y a un des textes que j'ai écrit où je me suis inspirée de sensations qui étaient liées plutôt à un voyage à Oran. Après, à d'autres moments, ce peut être Alger... Est-ce qu'il y a peut-être aussi un peu d'imprégnation, liée à la Kabylie. Ouais. Mais voilà, c'est l'Algérie dans son ensemble. À un moment, j'ai même pensé au désert, même si je n'y suis jamais allée. Je suis allée dans le désert marocain, mais pas le désert algérien.
Alors, tu es une militante de la cause des femmes.
On peut dire ça comme ça.
Et alors... il y a un très beau poème, moi j'ai beaucoup aimé, Femmes de toutes origines.
Ah, un merci.
Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît ?
Alors, je veux bien.
Elle est émue, hein, je vous le dis tout de suite. Je dis aux auditrices et aux auditeurs.
Non, j'ai soupiré parce qu'en fait j'essayais de retrouver la page, mais j'y suis. Femmes de toute origine, sortez vos miroirs de poche, maquillez vos lèvres de rouge, ici, devant l'entrée d'un commerce, ou là, sous le dôme ocre d'une mosquée. Lancez-vous dans la lumière sortie de son écrin, jetez vos bijoux sur le front des hommes, offrez au vent la cambrure de vos reins, la mer a faim de vous, plongez-y nus. Ne rasez les murs d'aucune cité, tant que votre beauté n'y sera célébrée. Laissez fuser libre vos éclats de rire, quand les éclairs déchirent soudain l'azur. Au nom de Dieu, accordez-vous tous les droits. Ayez la force d'une déesse mythique. Criez à ciel ouvert, dédiez-lui la puissance de vos voix, et que les seins se dressent sous les chemisiers, et que les cheveux se détachent et s'enroulent, et flamboient comme des torches, aussi violentes que la houle. Puissent les rues s'emplir de vos hurrahs victorieux, à bas les barreaux, fini. Que les hommes vous remercient d'être en vie, en se souvenant d'où coulait le lait nourricier, sans jamais oublier de respecter la mémoire. Et voilà.
Eh bien, écoutez, vous pourrez donc redécouvrir ce très beau poème publié donc aux éditions déjà.
La Rumeur Libre Édition.
Voilà, et que vous pouvez trouver bien évidemment chez Publico. Et puis c'est aussi la vie dans les quartiers. Certains mots sont extrêmement violents, c'est la dureté de la vie. Je pense par exemple au poème « Jeunesse à coups de fils de pute ».
Oui, alors celui-là, je l'ai écrit comme si... en fait, comme si... J'ai l'impression que parfois le langage nous fait tellement défaut qu'on se lance comme ça dans la vulgarité, qu'on érige comme un trophée. Et c'est une espèce de marque de fabrique. Je suis pas toujours à l'aise avec ça. Même si je sais très bien aussi manier ce langage-là. Je sais tout à fait le manier. Mais je ne me sens pas à l'aise pour autant avec ce langage. Et donc, ce petit texte, c'était une manière comme ça d'exprimer... voilà, d'exprimer quelque chose.
Tu pousses des coups de gueule quand même. Hein.
Oui, en l'occurrence, sur ce petit texte, oui, mais qui est. C'est une petite bulle en fait.
Oui, c'est une petite bulle. On peut l'écouter ?
Alors.
Elle cherche la page.
Oui, c'est pour ça que j'avais fait le petit bruit tout à l'heure, mais où est-ce qu'il est ce. Mince, je l'ai pourtant. Ça y est. Il est très court. Jeunesse, à coups de fils de pute, nique ta mère, nique ta race, la salope, crève, sale chienne, vomit ses mots, exulte, crache ici sa colère, pense à un jeu sans conséquence, mitraille les salves de la vulgarité, à la tienne, liberté de crier, liberté de penser, on chie sur le vocabulaire, à nous les étrons de l'arrogance, à nous les nerfs à vif, on nique alors à tout va, au moins ce droit-là. Finito.
Très fort. Ah. De vous à moi, je préfère le précédent sur les femmes, où certains passages me faisaient penser à Camus et d'autres passages me faisaient penser à de magnifiques tableaux et de magnifiques sculptures.
Celui-ci alors, était vraiment une digression dans la progression de ce recueil.
Mais
en même temps, il a sa place aussi.
Oui, parce que ça montre la diversité. Dans d'autres textes, par exemple, il y a le peuple, la vie. Il y a notamment la vie du marché. Page 25.
Merci.
Maintenant, vous avez compris. Elle connaît son texte par cœur, donc je lui donne même les pages.
Alors là, c'est un marché...
Alors, c'est un marché de banlieue, c'est un marché à Alger, c'est un
et
marché...
Et alors, justement, celui-ci, c'est un marché d'inspiration oranaise. Mais bon, voilà l'inspiration oranaise. Au marché, c'est une palette d'épices. Cannelle, cumin, carvi, coriandre, curcuma, poussière entre les doigts. Doux songe du peintre novice qui déjà se rêve en Van Gogh ou Diego. Devant les échoppes, des portes délabrées, aux étals d'ustensiles tout en désordres organisés, un pauvre marché, si pauvre, mais non moins aristocratique. Son jardin suspendu en guirlande de loupiottes électriques, ses visages sombres où respire la noblesse, comme la marque d'une très ancienne sagesse, l'atavisme des territoires mozabites.
Vous avez presque l'impression de sentir les odeurs à travers ce poème. Alors, certains poèmes n'ont pas de ponctuation, d'autres très peu. Pourquoi ? Est-ce que c'est l'influence de cette poésie ? On ne met pas de virgule, on ne met pas de point et les mots se suivent ?
Alors, peut-être il y a une forme d'influence, mais... En même temps, je me disais que c'était aussi pas inintéressant de laisser à la lectrice, au lecteur, la possibilité de se créer elle-même, lui-même, sa ponctuation, sa respiration. J'ai du mal avec le yel, hein, donc je ne l'emploie pas.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Le yel.
Oui, je sais. Ah. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, on est. Ouais. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de voir cette diversité. J'insiste vraiment. Tu as des projets de livres, des projets de pièces?
De livres, on peut dire que oui, puisque je devrais prochainement sortir aux éditions Velvet un ouvrage en novembre prochain, si tout va bien. Une sorte de fiction métaphysique, disons, enfin, en même temps critique sociale. Enfin bon, je ne peux pas trop en parler puisque c'est tout neuf, disons. Et le théâtre, pour l'instant, non. J'ai écrit des choses, mais qui sont dans mon tiroir. Et par ailleurs, je suis sur le projet d'un documentaire sur le parcours de Gilberte et William Sportis, qui étaient des militants communistes qui ont soutenu l'indépendance et qui ont vécu en Algérie jusqu'en 1994. Ils n'en sont partis que, en fait, en 1994. Ils avaient plus de 70 ans, l'un et l'autre, hein, quand ils ont quitté ce pays. Et donc, on est sur le projet d'un documentaire qui s'appelle « Deux vies pour l'Algérie
». Et on parlait de pièces à l'instant. Tu as été influencé par Armand Gatti.
Alors j'ai eu la chance de rencontrer, travailler un peu avec Armand, avec Gatti, à La Parole Errante. Je me suis retrouvée aussi dans des expériences théâtrales avec lui. Et puis on avait lié une amitié. C'était une très belle amitié. J'allais le voir assez régulièrement. On discutait ensemble dans son bureau là-haut. Et puis voilà, il me parlait de littérature. Il m'encourageait aussi, il me disait qu'il fallait toujours remettre son ouvrage et ne pas hésiter à travailler, retravailler. Mm-hmm. Et donc j'aimais beaucoup comment il appréhendait le monde.
Ce que tu dis me fait penser au livre de Kechichian qui explique au fil de ses pages combien il doit travailler, corriger, modifier et l'épuisement des écrivains quand ils rédigent. Enfin, on voit les textes de Proust, on voit les textes de Baudelaire, on voit c'est vraiment très fort, hein, le travail de l'écriture.
J'étais touché par les mots là que tu as lus tout à l'heure, justement. La façon dont il disait que pour lui, c'était tout un matériau à manier, remanier. Et c'est vrai que ça paraît effectivement simple comme ça quand on le lit. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Parfois, ça va venir, les mots vont couler.
Les mots pour le dire viennent aisément, comme
voilà,
tu disais, il y a aussi beaucoup de travail.
L'eau comme une source, mais c'est pas toujours aussi limpide.
Non, tout à fait. Et alors, je crois que tu as en projet, mais on n'a pas encore les dates, mais on va les annoncer dès notre prochaine émission quand on les aura. Tu vas faire une présentation de tes poèmes à Publico.
Tout à fait.
Publico, la librairie de la Fédération Anarchiste, 145 rue Amelot. Paris, Frédéric 11e, si je me souviens bien sûr.
Bon, je suis très contente d'ailleurs d'y être invitée. Alors, ce sera un vendredi, soit la mi-juin, soit juste après.
Bon.
Parce qu'en fait, on n'a pas encore arrêté l'un des deux vendredis. Et donc, il y aura une lecture musicale d'extraits du recueil. Mais également, en fait, on fait un jumelage. Il y aura aussi une projection d'un petit documentaire que j'avais réalisé de manière tout à fait artisanale pendant
sur un quartier
un quartier le 18e
m'avait montré oui.
Voilà, pendant le confinement j'étais chez moi à Paris et donc je suis allée filmer des temps place de Clichy, Barbès, la place du Tertre, Guy Moquet, enfin, le périmètre 18e.
D'accord.
Avec des. Que du off d'annonces à ce moment-là de certains politiques, disons. Et j'ai monté quoi, voilà, ce petit objet de 26 minutes. Et on voit les rues. Les rues.
Et c'est pour ça que vraiment, dès que nous aurons les dates définitives, nous l'indiquerons dans l'émission, parce que c'est vraiment un petit film qui est vraiment très intéressant. Et alors, un accompagnement musical, c'est-à-dire que va y avoir une guitare, va y avoir non, quand tu dis
alors là, là tu sais du pas coup, encore. Si là, je sais complètement. Mais alors là, c'est. C'est moi qui suis avec mon ordinateur portable. On est dans un temps ultra moderne. Je suis désolée.
Moderne, Sandrine,
non, mais c'est-à-dire que j'arrive
elle
en solo.
Elle est contre le YEL, mais elle est moderne.
Bah, oui, c'est-à-dire que bon, bah, voilà, chacun, voilà. Chacune, ses priorités, mais ses petites inclinations. C'est que là, du coup, je suis entre guillemets autonome. Mm-hmm. Parce que solliciter un musicien, une musicienne, c'est pas toujours évident que la personne soit disponible au moment où toi tu fais la présentation. Mm-hmm. Et j'ai bénéficié avec son accord, parce qu'en fait j'ai utilisé des enregistrements d'une femme, parce que j'étais venue ici pour Chronique Rebelle avec Christiane Passevant. Et elle m'avait enregistré quelques textes en musique. Et c'était vraiment un petit matériau très, très ciselé. Et du coup, j'utilise quelques-unes de ses productions, mm-hmm. avec son accord. Et moi, je lis mes propres textes à voix nue. Et alors, je n'ai pas pris tous les textes qu'elle avait enregistrés, Christiane. Et je fais un petit mélange. Et voilà, ça me fait ma présentation, comme ça, mm-hmm. variée.
D'accord. Donc, nous l'annoncerons dès qu'on sera sûr de ces dates. Et nous pourrions conclure, parce qu'on est quand même sur Radio Libertaire, nous pourrions conclure par le poème consacré à Sacco et Vanzetti.
Celui-là, j'avais retenu la page 22.
Page 22.
Parce qu'il y a la vieille blague... Des années, ouais. Des années 22, voilà
les flics.
Frères militants ouvriers, ils réclamaient justice, celle d'en bas, celle de l'honneur des sans-voix, ceux dont on méprisait le métier, ceux dont on profitait jusqu'à l'usure, dans l'Amérique des années 20. Les pauvres travailleurs payaient trois fois rien, du capital, déjà bâtissait le mur. Frères militants, à l'œuvre pour qu'advienne la dignité. Dans les rues, ils manifestaient, frères libertaires, à corps et à cri, d'une volonté de faire, dont personne ne pouvait chez eux rien marchander. Fallait alors en finir avec ces durs à cuire, ces meneurs trop dangereux, ces meneurs insoumis, ces révoltés d'immigrants. Le juge tailleur serait de la partie. Falsifier les preuves, accuser à tort, concocter le grand banquet de la mise à mort. Nicolas Sacco, Bartolomeo Vanzetti, frères amis, honnis par le juge, écrasés à jamais les rebelles, chaise électrique pour deux loyaux fidèles, la chaise, sans regret pour le juge, à mort les innocents.
Merci Sandrine.
Donc, c'est moi. Merci.
On t'attend pour le prochain livre. Et nous avons commencé avec Léo Ferré et Verlaine. Eh bien, nous allons terminer par John Baez, mais la ballade de Sacco et Vanzetti. Frédéric.
Fear not to relay my grief. war with its immensity of strength and power. Know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. And the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell. The workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution, don't need dollars, they need this instead.
Les applaudissements que nous avons entendus, eh bien, ce sont les applaudissements qui bientôt retentiront à Publico lorsque Sandrine Malika Charlemagne va venir présenter son spectacle. Je vous rappelle que nous l'annoncerons dans l'émission, nous l'annoncerons aussi sur les réseaux et les sites sur lesquels on a des contacts. Alors, depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés et je rappelle que j'en suis désolé, Sandrine me le disait d'ailleurs tout à l'heure, j'ai lu un peu rapidement certaines chroniques parce qu'on a démarré un peu tard et vous savez que je n'aime pas démarrer tard. Alors vous retrouverez les références de ces ouvrages, comme à l'ordinaire sur le blog du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste, c'est là où nous annonçons les émissions. Et puis, comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et puis, vous pouvez aussi retrouver certains commentaires sur notre page Facebook. On a une page qui s'appelle Au fil des pages, ou encore sur la chronique des idées et des luttes qui figure sur le site du Monde Libertaire. Cette semaine, je présente le livre « Ceci n'est pas un atlas » qui a été publié en début d'année aux éditions du Commun. C'est vraiment un livre que je trouve tout à fait intéressant. Donc, troisième temps de l'émission, on a un petit peu coutume de l'appeler Varia, c'est-à-dire que c'est un moment d'histoire. Et je vais présenter un livre qui m'a beaucoup touché, là aussi. C'est un livre sur la mine, que j'avais intitulé dans Des idées et des luttes, je l'avais intitulé Aux morts au cœur de la terre. En effet, les catastrophes humaines dans les mines du Nord, dues aux grisous, aux éboulements de terrain, il y en a eu quantité. Tout un chacun se rappelle la pire en nombre de morts et de blessés, celle de Courrières en 1906. Mais jusqu'à la fermeture des mines, dans les années 80, en France bien sûr, la dernière, je rappelle que c'est la fosse Douany, en 1990, les souffrances des familles constituent un long et sinistre cortège. Philippe Artière, historien, auteur de nombreux ouvrages, dont un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais commenté dans Des idées et des luttes en juin 2021, le livre s'appelle Le peuple du Larzac, eh bien, coordonne la publication d'un recueil de textes, de témoignages, de reportages photographiques, de comptes rendus d'audience, complété par une analyse fine et intelligente du drame de Fouquières-les-Lances en 1970. Le livre a un titre évocateur, La mine en procès, publié aux éditions Anna Mosa, toujours pareil, en 2023. Au matin du 4 février 1970, vers les 7 heures, une explosion retentit. La sirène emplit d'un son lugubre l'ensemble du bassin minier. 16 morts. Encore en trop. Et pourtant, il y aura la catastrophe de Liévin en 1974, avec 42 morts. Et au-delà de l'évocation du drame, Fouquières-les-Lances déclenche une vague de protestations dans le prolongement de 1968. Il s'agit bien de dénoncer les houillères, l'exploitation des mineurs, les maladies, les accidents du travail, l'absence des règles de sécurité. Un mouvement, la gauche prolétarienne, souhaite ouvrir de nouveaux fronts. Ces militants s'établissent, vous connaissez la formule, s'établissent avec plus ou moins de bonheur et certains dans le Nord vont essayer de le faire, mais il va y avoir un procès et Jean-Paul Sartre sera à l'origine de cette idée de tribunal populaire où pourront témoigner les mineurs, les experts, les militants. Michel Foucault est plus mitigé mais dénonce vigoureusement la police et la justice. Et les médias retiendront les images fortes des obsèques, le discours de Joseph Valois, délégué des mineurs. Qui est responsable? Eh bien justement, il faut le savoir. Et les étudiants des écoles de mines se mobilisent. Ils expliquent, démontrent les arguments fallacieux des houillères, y compris devant la Cour de sûreté de l'État. Vous vous rendez compte qu'à cette époque, les militants passaient devant une juridiction d'exception, la Cour de sûreté de l'État. Où, même là, les juges, pourtant aux ordres, vacillent dans leur certitude. Le tribunal populaire s'installe le 12 décembre 1970 à Lens, dans une salle prêtée par la municipalité socialiste, dirigée par André Delelis, malgré les pressions patronales, préfectorales et même de la gauche stalinienne. Présidente du jury, une résistante, Jean-Paul Sartre, avocat général, et un jury composé de gens du peuple. Les faits sont analysés, décortiqués, et on démontre que tout ce qui se passe dans les mines, au cœur, eh bien, se traduit par des cris, les pleurs des familles. 900 morts par an de la silicose, 90 morts par an victimes d'un coup de grisou, d'un éboulement. Les diagnostics des médecins révèlent leur connivence avec les houillères. Eh oui, c'est la faute des mineurs s'ils sont silicosés à 90%, bien évidemment. Et plus tard, ces mêmes médecins avoueront qu'ils sont payés par les houillères. Je rappelle un livre qui m'avait aussi beaucoup touché, qui s'appelle « Les gueules noires » et que j'ai commenté en novembre 2022 et qui montre la vie des mineurs au début du XXe siècle. Zola, les gueules noires, la mine en procès, c'est toujours le même système, la même exploitation. Et puis il y a une mobilisation qui est tout à fait intéressante, c'est celle d'artistes, de peintres, de sculpteurs qui vont organiser une expo-vente au profit des mineurs. Et là, il y a un lien qui s'établit entre le monde du travail et le monde artistique. Nous sommes dans les années 70. Et en France, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Tout va pour le mieux en matière de sécurité au travail ? Certainement pas. Les salariés tués, gravement blessés, handicapés à vie, victimes de l'amiante, vous vous rappelez, il y a 15 jours, nous avons reçu Virginie Dupérou qui nous a parlé de son père qui est mort justement de l'amiante et de toutes ces victimes de l'amiante. J'ai parlé aussi récemment d'un livre sur l'hécatombe que l'on préfère cacher de tous les accidents du travail. Et l'ensemble de ces faits traduisent l'absence de respect des mesures de sécurité de la part des patrons qui veulent toujours accroître la productivité, tout comme les houillères n'ont jamais respecté une réglementation qui pourtant datait de 1810. Toujours plus de fric. Le livre est vraiment passionnant et en plus vous avez les documents qui vous sont fournis. Alors, il s'agit du livre de Philippe Artière, La mine en procès, Fouquier-les-Lance, 1970, et c'est publié aux éditions Anamosa en 2023. En attendant notre ami Dominique, eh bien, je voudrais vous parler d'un livre là qui m'a été proposé par un de nos amis Ramon. Alors ça concerne la guerre d'Espagne. Et cette guerre d'Espagne, elle n'a pas fini de nous interroger sur la part de mystère des femmes et des hommes de part et d'autre des Pyrénées. Vous savez, cette chaîne de montagnes qui ressemble à une feuille de fougère, pour reprendre la formule d'Élisée Reclus. Cette chaîne, elle est davantage un lieu de passage qu'un barrage entre les deux peuples, espagnol et français. Et un roman, Un oubli sans nom, de Serge Legrand, Val, Le Grand Val, publié aux éditions Inuit, aborde la question des enfants adoptés, ceux descendants de la première et deuxième génération des républicains espagnols. Observons la couverture, vous allez dire, c'est vraiment une obsession. Oui, je suis très attaché au graphisme, aux photographies qui traduisent le texte et qui invitent à la lecture. En l'espèce, deux femmes revêtues de grandes robes noires, avec un fichu sur la tête, une figure de notre Méditerranée. Elles sont de dos et marchent en se tenant la main. Une belle image qui trouvera écho dans le livre, vous lirez. Et face à elles, avance une jeune femme, blonde, moderne, les yeux baissés, comme éblouie par le soleil, ou à la recherche d'un mystère. Là, vous lirez encore et vous comprendrez pourquoi. Les enfants adoptés, même choyés, dans leur nouvelle famille, ont toujours ce doute, cette volonté de savoir. Ils sont en recherche d'identité. Et c'est le cas de Suzanne. Elle est née dans les Pyrénées-Orientales. Elle est adoptée par une famille normande, français moyen, pas idiot, une vie familiale classique. Ils lui offrent tout ce qu'ils peuvent. Et elle ne leur en veut pas. Simplement, elle grandit et elle sent bien qu'il y a quelque chose. Et nous sommes dans les années 70. La jeunesse est bouillonnante. Kerouac, Leonard Cohen, tout est possible, y compris de traverser la France pour se retrouver dans ces paysages qui accueillirent dans la souffrance les réfugiés espagnols. Dont qui ? Sa mère ? Sa famille, qui l'a confiée à l'assistance publique? C'est la vraie question qu'elle se pose. Quel est son vrai nom? Autre question. Quel est ce village pyrénéen dont elle a un vague souvenir? À la recherche de son village, de sa famille. Elle se découvre dans une aventure affective, intellectuelle, sexuelle. Il lui faut remonter le temps. Nous, cela nous permet de découvrir les communautés libertaires de cette époque et leur complexité politique, écolo avant l'heure. Vous goûterez sans doute l'émotion du chemin, celui des retrouvailles. Comment retrouvera-t-elle ses parents ? Cette quête se poursuivra en Catalogne, encore sous la dictature franquiste, plus particulièrement sur l'île de Majorque. Les atrocités de la répression, les fusillades sont évoquées à voix basse par les habitants, inavouable secret. Et forte d'une reconstitution toujours imparfaite, bien sûr, mais qui éclaire cependant Suzanne. Eh bien, celle-ci revient en France et vous achèverez la lecture d'un livre qui est tout, sauf mièvre et à l'eau de rose. Tout simplement, il est comme la vie. Serge Le Grandval, Un oubli sans nom, aux éditions Inuit, en 2022. C'était donc un coup d'œil dans la série que nous appelons les romans de la vie. Dernière étape de notre émission, un coup de cœur de Dominique. Est-ce qu'on peut passer Dominique en direct ?
Oui, je suis là.
Alors, Dominique, tu commençais à nous faire peur, là, parce que tu avais un petit peu de retard, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, oui. Quand on sait d'où tu viens, bon, c'est pas grave.
Oui, j'arrive de la montagne. Donc,
ah là là, mon Dieu, enchantant. Alors, oui. Là, tu vas nous parler, alors, c'est pas un roman, c'est pas de la poésie, mais non. Tu vas nous parler, bah, parce que tu descends de la montagne, ça doit être pour ça, de oui. Lichen. Qu'est-ce que oui. c'est que cette histoire ?
Alors, le livre s'appelle « Lichens » au pluriel, pour une résistance minimale, de Vincent Zonka. Alors, quelques mots sur Vincent Zonka. Il est né à Dijon en 1987. C'est un diplômé de l'École normale supérieure de Lyon. Et il travaille actuellement à l'ambassade de France au Brésil. Et il s'intéresse surtout à ce qu'il appelle la biodiversité négligée et à la nature urbaine.
Alors, c'est un essai, alors ? C'est quoi ?
Oui, mais alors, c'est un essai quand même très atypique. Alors, il est à la fois grand public, parce que j'ai tout compris. Donc, c'est sur cet être discret et méconnu qu'est le lichen. C'est un livre de synthèse qui mêle l'anthropologie, la biologie, l'urbanisme, et surtout la littérature, la botanique et la philosophie.
Et là.
Alors, il est préfacé par un philosophe italien, Emmanuel Coccia, auteur de La vie des plantes. Mmh. Et il est vraiment atypique parce que, en fait, il va expliquer ce qu'est le lichen, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue littéraire. Donc, c'est ça son originalité. Hein. Et on va y rencontrer de nombreux lichénologues, dont Rimbaud.
Dont ah bon
Rimbaud. Oui, oui. Alors. D'abord, la définition du lichen, ça vient du grec, hein, ça désigne autant un organisme naturel, discret, que la dartre sur la peau. Hein. Alors, c'est vraiment une espèce mal considérée, je ne sais pas si tu... C'est pas comme une fleur, hein, c'est non. pas grandiose. D'ailleurs, Émile Zola le qualifie d'un gris blafard de vieille pierre. Ce n'est ni une plante, ni un animal. Le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle, c'est joli hein, comme nom.
Pyramus de Candolle, oui.
Oui, l'a identifié une première fois en 1818, mais c'est en 1860 qu'on découvre que c'est à la fois un champignon qui apporte le support, l'eau et les minéraux, à une algue. Et puis récemment, on découvre qu'il y a un troisième larron, c'est un autre champignon qui ressemble à une levure. Donc c'est vraiment l'exemple type de la symbiose et du vivre ensemble. Alors, ça croît très lentement, c'est 5 mm par an. Ça pousse sur les écorces des arbres, mais sur les supports rocheux, métalliques, plastiques. Et ça résiste à toutes les températures, de moins 60 à plus 70. Et dans la toundra, il fournit 90% de la nourriture aux rennes. Il y a 20 000 espèces sur Terre, hein, donc c'est quand même une grande diversité. Et ça prend des formes, je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais c'est souvent frisé, un peu vert. Mmh. Ça peut être effiloché, feuillu, barbu, dentelle, croûte. Bon,
alors ça alimente aussi des ouvrages, de la poésie, c'est source aussi de
Oui, alors
de
attends,
mystère.
Avant, Oui, avant de dire ça, je voulais te dire que c'est vraiment aussi un bio-indicateur de présence de la pollution.
Oui.
Parce que le poète et naturaliste Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, disait que quand les conditions de vie deviennent impossibles, le lichen tombe en léthargie pour renaître dès que elles redeviennent acceptables. Donc c'est un excellent indicateur. Alors oui, les philosophes en parlent, Montaigne, Rousseau, Bachelard, Thoreau, qui dit « en étant enclin à marcher dans les bois en quête d'objets divers, tout est recouvert par le brouillard et on entend le son ».
On rappelle qui est Thoreau ?
Oui, alors c'était un naturaliste mais philosophe qui vivait, qui adorait la nature. Hein. Et donc il termine sa phrase en disant « c'est un jour de lichen ». Donc il fait l'éloge du lichen comme modèle de la vie ascétique. Hein. Charles Fourier en parle. Parce qu'il disait qu'il voulait établir les liens entre les choses naturelles et sociales.
Charles Fourier, le concepteur du phalanstère.
Du phalanstère, oui. Mm. Le taoïsme en fait référence. Les artistes, c'est comme une peinture naturelle, le lichen. Donc les surréalistes s'en sont beaucoup servis. Avec une loupe, on voit un peu des paysages extravagants. C'est comme une carte de géographie. Sa couleur aussi, sa polychronie inspire beaucoup. Il est même devenu un modèle pour la musique expérimentale, dont celle de John Cage.
Ah oui.
Donc il y a un morceau qui s'appelle Mushroom Book et Xenakis. On a Bernard Sabi, que je ne connaissais pas, qui fut un lichénologue très réputé, botaniste, sinologue, musicien et peintre. Souvent, ceux qui s'intéressent au lichen s'intéressent à plein d'autres sujets que le lichen. Ils font des liens.
Il est effectivement célèbre en littérature, donc. Hein.
Alors, en littérature, alors tout d'abord en poésie, parce que le lichen est un art qui évolue comme la poésie en milieu hostile. Hein. C'est une invitation à la métaphore, à la création littéraire. Il est vénéré au Japon, et d'ailleurs, il est vénéré dans l'hymne national du Japon et dans de nombreux haïkus. Il y a une revue de poésie qui s'appelle Lichen. Hein, et la liste, alors j'ai appris dans ce livre, mais c'est impressionnant, la liste des poètes qui en font référence, Victor Hugo, Césaire, Goethe, Rimbaud. Donc, relisez Le bateau ivre, il parle des lichens de soleil et des morves d'azur. Saint-Jean de Perse, Guy Vig, Jacoté, Follin, les poètes étrangers, Enzensberger, Thomas Transtromer, une poétesse, les Amérindiens, beaucoup les Amérindiens, Neruda, une poète allemande, Brenda Hillman, qui associe le lichen à la condition ouvrière, des poètes espagnols, et puis deux poètes contemporains, un poète italien qui s'appelle Camillus Barbaro, il est surnommé le poète du lichen, et un poète français, Antoine Aimaz, qui relie le lichen encore une fois à la poésie. Il dit « La poésie n'est pas un feu d'artifice qui brille, se remarque au loin, mais dure peu de temps. Je la vois plutôt comme une veilleuse ou un lichen. Le lichen est habitué au milieu hostile. » Donc pour lui, ça personnifie aussi la résistance. Il dit j'aime à penser la poésie comme un lichen ou un lierre.
Alors donc tu conclus en disant que ce livre donne envie d'aller se balader en forêt.
Oui. Alors attends, juste je voudrais citer les écrivains voyageurs, Walter Benjamin, Jacques Lacarrière, Victor Segalen, Sylvain Tesson, Philippe Vasset, tous en ont parlé. Et donc je conclus en disant que ça donne vraiment envie d'aller se balader en forêt avec une loupe ou un appareil photo pour explorer tous les coins et les recoins où niche ce lichen mollement installé dans les feuilles et la mousse. Et puis relisez Rimbaud.
On va relire le bateau ivre. Oui. On en parlait avec Sandrine là tout à l'heure. Oui, tout à
bon.
Fait.
Voilà.
Bon, écoute, c'est très bien ça. Vraiment, on ne serait pas cru face à une plante aussi, un champignon aussi spécifique et aussi complexe. Oui. Alors, la prochaine fois, fin mai.
Alors, Bernard Chambaz, La peau du dos. La peau du dos, c'est une histoire. On ne sait pas. Hein, c'est l'amitié entre Auguste Renoir et Raoul Rigaud.
Bon, ça sera pas très loin.
Qui a travaillé pour la commune.
Ça sera pas très loin, effectivement, de la commune de Paris dont nous allons malheureusement fêter entre guillemets la semaine sanglante. Eh bien, merci Dominique. Donc, on se retrouve, c'est terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. On se retrouve dans 15 jours. Nous allons inviter dans 15 jours une des commissaires d'une exposition consacrée aux Tziganes, aux Gitans, aux Sinti, l'exposition Barvalo au Mucem, avec un très beau catalogue qui s'appelle Barvalo. L'équipe d'Au fil des pages vous souhaite une bonne lecture avec Léo Ferré, ou en tout cas le début Ni Dieu ni Maître.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui prend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, qui met dans l'horreur civile.